Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, que trouverez-vous dans votre assiette en 2030? La science dans l'alimentation doit-elle faire peur ou pas? Les OGM sont-ils la clé de la réussite d'une agriculture raisonnée? Des steaks de clones aux végétaux enrichis en vitamines et minéraux? Du gras de porc transformé aux oméga-3 aux pulvérisateurs de flaveurs donnant n'importe quelle saveur à un aliment? Notre invité de ce jour a réfléchi à 5 scénarios possibles. Pierre Feillet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes directeur de recherche émérite à l'Institut National de Recherche Agronomique, en d'autres termes l'INRA, membre de l'Académie des Technologies, également membre de l'Académie d'Agriculture. Vous venez de publier « La nourriture des Français de la maîtrise du feu aux années 2030 » aux éditions Coué en 2007. Nous n'évoquerons pas les deux premières parties de ce livre, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement au cours de ces 45 minutes à ces fameux 5 scénarios possibles que vous avez établi, qui constitue donc la troisième partie de votre ouvrage. Et cette émission, je le précise, fait suite à une séance de l'Académie d'agriculture consacrée en partie aux nanobiotechnologies dans l'alimentation. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors il semble que pour ce sujet, Pierre Feillet, à savoir ces 5 scénarios, vous vous êtes en partie appuyé sur un rapport du Sénat publié en 2007 et que vous citez d'ailleurs dans votre livre, qui établit pour sa part 4 scénarios, soit un de moins que vous, Pierre Feillet.
Oui, c'est pas tout à fait exact. Le Sénat a mené une réflexion sur l'évolution du système agricole en faisant des hypothèses de nature totalement économique. C'est pas tout à fait le cheminement que j'ai suivi. Personnellement, je suis parti du fait que le système alimentaire, celui qui nous nourrit, est sous la pression d'un certain nombre de forces. Des forces dues à l'évolution des connaissances scientifiques, des forces dues au fait que l'État intervient peu ou prou dans notre système alimentaire, des forces dues à la puissance du complexe agro-industriel qui produit et transforme les aliments, des forces qui sont dues au fait qu'il faut protéger notre environnement, et puis une force tout à fait essentielle, celle du consommateur qui veut peut-être pas se laisser nourrir d'une manière différente de celle qu'il l'entend. Donc c'est plutôt ces 5 forces que j'ai pris en compte, en les poussant chacune d'entre elles et de manière indépendante à l'extrême, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passerait si l'une d'entre elles l'emportait sur toutes les autres. Voilà qui a été davantage la base de ma réflexion et qui a bien sûr nécessité de ma part, parce qu'on n'est pas compétent dans tous les secteurs scientifiques. Moi, je suis moi-même plutôt un physico-chimiste des aliments. J'ai dû donc me tourner vers mes collègues d'autres sciences, de la nutrition, de la génétique, de la sociologie, de l'économie, les entendre ou les lire et à partir de là, me faire ma propre idée sur ce que pourrait être l'avenir de notre alimentation.
Et donc, il faut préciser que ce sont des fictions, mais vous vous basez sur des éléments tout à fait véritables.
Alors, je me base sur les éléments connus à 2007. Et quand je m'exprime pour ce qui pourrait se passer dans un scénario un peu imaginaire en 2030, je suis effectivement dans des choses que l'on peut imaginer, qui sont donc imaginables, mais dont je ne suis pas du tout certain qu'elles se produisent. Mon idée n'est pas du tout de prévoir ce que sera notre alimentation en 2030, c'est de donner au lecteur un certain nombre d'éléments d'évolution possible. Ce n'est pas de la prédiction, c'est de la matière à penser pour le futur, et à lui, finalement, de se faire sa propre idée, et au consommateur, s'il lit ces informations, de dire bah, ça ne m'intéresse pas, je vais me battre pour aller dans un autre sens. Voilà.
Nous allons entrer dans le vif du sujet, nous allons parler, et là je me base plus particulièrement sur les chapitres de cette troisième partie, nous allons parler de l'alimentation qui protège la santé, les fameux aliments santé. Nous parlerons également de l'impérialisme agro-industriel, des OGM, de l'agriculture biologique. Un cinquième scénario sur les Français qui ne se laissent pas faire. Ce sera le cinquième scénario. Mais tout d'abord, commençons par le premier scénario qui est que la science bâtit le meilleur des mondes. Qu'est-ce que les biotechnologies? Les fameuses étiquettes sur les fruits qui pourront un jour indiquer l'état de la maturation. Les fameux codes-barres également qui faciliteront la vie des consommateurs. Mais tout d'abord, la science bâtit le meilleur du monde. C'est un peu l'apologie de la science.
Oui, c'est l'apologie de la science. C'est-à-dire, voici ce qui se prépare dans les laboratoires, laboratoires privés, laboratoires publics. Le système alimentaire, je le définis comme étant celui qui contribue à nous nourrir, c'est-à-dire qui part des semences et de l'agriculture, qui passe par les industries alimentaires, la distribution et qui arrive jusqu'à la cuisine. Ben, ce système-là va très fortement évoluer sous la pression de trois grands secteurs eux-mêmes en pleine évolution, que sont les biotechnologies, les technologies du vivant, les nanotechnologies, les technologies au milliardième de mètre, et les sciences techniques de l'information et de la communication que l'on voit au quotidien. Et c'est vrai qu'il est intéressant de se dire si tout ce qui se passe aujourd'hui venait à prendre le pas sur tout le reste dans notre alimentation, ben voici peut-être ce qu'on pourrait imaginer. C'est ce premier scénario.
Quelques exemples. Le lait, le vin, le pain. Je ne vais pas dire le boursin, mais le lait, par exemple, on aura cette possibilité de pouvoir donner la même saveur au lait en y ajoutant, je ne sais pas, des ferments spécifiques qui donneront, malgré les saisons, malgré les espèces, malgré l'alimentation, un lait qui aura toujours la même saveur.
Mais on peut parler effectivement du lait, du pain et du vin. Ce sont trois produits qui sont les mères des biotechnologies. La fabrication des aliments fermentés, c'est les biotechnologies ancestrales. Le pain avec du levain, le lait avec des bactéries lactiques, le vin aussi. Tout ceci, ce sont des fermentations qui permettent de développer des textures, des arômes, des saveurs, des goûts. Et il y a une grande question dans notre système alimentaire, dans les industries alimentaires, c'est la suivante. On a une matière première, qui est une matière première agricole, de composition éminemment variable en fonction des années et des lieux de production. Le lait d'une vache normande n'est pas la même au printemps et à l'automne et n'est pas la même que celle d'une vache se développe sur les plateaux de la Limagne ou dans le sud-ouest. Il y a des effets terroirs, des effets années, des effets race. De même, le vin, on sait bien que le raisin n'est pas le même, il y a des crus. La grande question pour les industries alimentaires, c'est partant d'une matière première variable, c'est d'en faire des produits de composition constante. Et pour ça, elle met en œuvre des technologies basées sur les transformations physiques, l'ajout de substances chimiques, l'ajout de substances fermentaires. On peut très bien imaginer que la maîtrise des microbes et de leur activité physiologique qui font qu'un lait, qu'elle contribue à la transformation d'un lait en fromage et à la formation d'arômes, soit tellement bien maîtrisée que finalement le goût et la texture du fromage ne soient plus fonction des caractéristiques du lait, mais fonction de la manière dont on conduit la fermentation et de la manière dont on a sélectionné des microbes. Alors pour le fromage, on n'est pas très sensible à ça, mais pour le vin, on l'est bien davantage. Est-ce qu'un jour, la notion de terroir aura disparu parce que les microbiologistes et les spécialistes de la fermentation seront capables de maîtriser de telle manière la fermentation que ce qui importera le plus, c'est le micro-organisme et le moins, le cépage. Je ne sais pas ce qui se passera. C'est imaginaire, c'est donc imaginable.
Mais c'est un scénario exceptionnel, en tout cas pour les viticulteurs qui pourraient, à partir de saisons pas forcément idéales, créer des vins exceptionnels.
Vous savez, ça me rappelle des travaux qui ont été faits dans les années 80 aux États-Unis, au Massachusetts Institute of Technology, où ils avaient publié des travaux disant « Finalement, la matière première n'a aucune importance dans le vin. Nous, avec le lactosérum résidu de la fabrication du fromage et avec les micro-organismes qu'il faut, je vous fais un vin d'excellente qualité. » Pousser un petit peu loin le bouchon de la microbiologie, mais bon voilà, ce n'est pas une idée forcément récente, mais on sait qu'il y a des firmes dont le métier est de sélectionner des levures dont l'objet est d'être plus performantes en fabrication viticole. Un exemple, lorsque l'on fait fermenter une cuve avec des levures et que l'on veut plus facilement, à la fin de la fermentation, éliminer les levures, on a sélectionné des levures qui se déposent plus rapidement que d'autres pour éliminer ce lit de levures. Donc c'est déjà en pratique, pas jusqu'où je l'imagine dans mon livre.
Nous avons parlé des produits laitiers, nous avons parlé du vin, de la viticulture. Parlons un peu de l'agriculture, de l'élevage. Vous donnez deux exemples, et là pour le coup, qui datent de 2005 et 2006. Donc on n'est pas dans la fiction. Le premier, donc concernant l'élevage de la production pour la viande, en 2006, la création des porcs aux oméga-3. En d'autres termes, transformer le gras de porc qui est oméga 6 en oméga 3. Comment est-ce possible?
C'est des travaux qui sont encore expérimentaux. Tout de suite, il faut préciser qu'actuellement, il n'existe pas la moindre viande commercialisée, à ma connaissance, certainement pas en France, mais à ma connaissance dans tous les pays occidentaux,
et probablement dans le monde, qui soient issus d'un animal génétiquement transformé. Donc, il s'agit de travaux de laboratoire. Mais ce sont des équipes nord-américaines qui, en modifiant les voies métaboliques de synthèse des acides gras oméga-3 et oméga-6, sont arrivés à faire basculer la synthèse des oméga-6 vers la voie des oméga-3. Donc, c'est tout simplement une question de modification d'enzyme. Et lorsque l'on dit « je modifie une enzyme dans un être vivant », il suffit pour cela de modifier le gène qui code par cette enzyme et donc soit d'empêcher son fonctionnement en mettant un bloqueur d'expression du gène, soit en ajoutant un gène codant pour une enzyme qui monte dans le circuit métabolique. Donc, on sait faire, il y a des expériences. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'est de dire, on vous dit ne pas manger trop de gras de viande parce que le gras de la viande, c'est pas bon, et que le gras végétal, c'est bon. Eh bien, si on arrive à cette évolution-là, peut-être, un jour, eh bien, à ce moment-là, on ne pourra plus le dire. Et il y aura une espèce de banalisation. Il faudra d'ailleurs faire attention, parce que il faut également des oméga-6 dans la ration. Vous savez, le grand principe, alors peut-être qu'on le répétera plusieurs fois dans cette interview, le grand principe, c'est qu'il faut manger équilibré, il n'y a pas d'aliment miracle.
Dans ce domaine de recherche, est-ce que les États-Unis sont précurseurs, puisque le Food and Drug Administration, en charge de la sécurité des aliments, a conclu, lors d'une enquête en 2006, de l'innocuité des steaks de clones?
Oui, oui, absolument, absolument. Ils sont précurseurs. La FDA que vous citez, la Food and Drug Administration, la position qu'elle a prise n'a pas forcément fait l'unanimité des professionnels, qui sont peut-être plus prudents même que la FDA. Donc actuellement, on n'en trouve pas de ces produits-là. Mais dans le domaine des transformations génétiques, hein, on parle là des animaux, mais bien sûr, on peut parler des végétaux, ils sont infiniment plus en avance que nous sur le plan des applications et de l'acceptabilité. Mais cette avance-là, en 1980, ils ne l'avaient pas. C'est-à-dire que la science européenne et la science française, en 1980, dans le domaine des transformations génétiques, là je parle des végétaux, étaient très largement en avance sur la science américaine. Les travaux belges, on peut citer les équipes belges, mais des équipes allemandes, des équipes françaises, étaient très en avance. Cette avance, on l'a perdue. J'espère que ce n'est pas définitif. On l'a perdue pour un tas de raisons qu'on peut expliquer, mais qui n'est certainement pas due à la compétence des chercheurs dont certains ont dû mettre la pédale douce sur leurs travaux.
Et les steaks de clones aux États-Unis, d'ici 2020, d'ici 2030, on pourrait s'alimenter de steaks de clones?
Oui, enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par clone. Hein. La notion de clone, c'est l'animal qu'on le reproduit identique à lui-même à partir d'une cellule prélevée sur cet animal. Mais au cours de cette opération, on peut en même temps faire des transformations génétiques de l'information héréditaire contenue dans la cellule. Que, à terme, effectivement, on puisse se nourrir avec des animaux qui étaient génétiquement transformés par voie de la biologie moléculaire et de la transformation génétique qu'on appelle ces organismes génétiquement modifiés. Oui, mais déjà, tous les animaux que l'on consomme aujourd'hui ont été transformés par la main de l'homme. Hein. Il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas un seul aliment que nous mangeons aujourd'hui, qu'il soit animal ou végétal, qui ne soit pas artificiel dans le sens où la main de l'homme y est passé un moment ou un autre. Il n'y a pas si longtemps où les carottes étaient blanches. Et il n'y a pas si longtemps où la vache faisait 10 fois moins de lait qu'aujourd'hui. Où la poule pondait 3 fois moins d'œufs. Où le porc était apprécié lorsqu'il avait beaucoup de gras. Et on en faisait du saindoux. Et qu'aujourd'hui, le porc apprécié, c'est celui qui n'en fait pas de gras. Donc il a bien fallu que par sélection génétique, donc par modification du patrimoine génétique, on modifie les propriétés intrinsèques de ces animaux. Donc les transformations génétiques conçues dans un sens large, elles existent depuis toujours. Hein. Le bœuf, il vient de l'auroch, dû à l'homme. Bon, il s'agit, lorsqu'on parle d'organismes génétiquement modifiés, de l'utilisation d'une technique particulière qui est mutante, qui est nettement différente des précédentes, mais qui vise toujours le même objet, modifier génétiquement le patrimoine héréditaire des êtres vivants.
On vient de parler des États-Unis. En France, il existe une entreprise, en tout cas c'est une entreprise française, Cryozotech, que vous citez dans votre livre, et qui se lance dans la création de clonage d'animaux de compétition cette fois-ci, pas pour l'alimentation.
Oui, alors on sait reproduire à l'identique des animaux, ce qui peut être intéressant pour un géniteur par exemple. Hein. On sait faire, mais ça coûte très cher parce que la technique aujourd'hui est mal maîtrisée, il y a un énorme déchet et si c'était utilisé pour un élevage traditionnel, tous les spécialistes, tous mes collègues zootechniciens s'accordent pour dire que ce ne serait pas rentable dans l'état aujourd'hui. Par contre, pour des produits à très très haute valeur ajoutée, et vous parlez là des animaux de compétition, c'est vrai, ça peut s'envisager. Et donc, il y a une entreprise, alors est-ce qu'elle réussira, est-ce qu'elle gagnera de l'argent, j'en sais rien. Mais je le cite parce que ça existe et que ce n'est pas donc du rêve et de la science-fiction.
En démarrant cette émission, j'ai parlé des étiquettes intelligentes et également des fameux codes-barres intelligents qui permettront, là pour le coup, aux consommateurs de faciliter leur vie, ne serait-ce que dans le choix de leurs aliments, et après, une fois de les avoir achetés, directement dans le caddie, de passer devant une borne et de rentrer directement dans sa voiture ou directement chez soi, sans passer sur le fameux tapis où une caissière est obligée de passer les codes-barres.
Oui, alors ça, c'est pas de la fiction, on sait déjà faire. Hein. Dans les laboratoires des grands distributeurs, des prototypes qui fonctionnent très bien, qui reposent sur des étiquettes qui sont tout à fait identiques à celles qu'utilisent certains conducteurs sur les autoroutes, qui leur permet de passer sans s'arrêter. C'est ce qu'on appelle la RFID, qui sont une identification par radiofréquence. L'étiquette qui est portée sur l'aliment va envoyer un message vers un système de comptabilité qui va identifier le produit et sortir son prix. Et à la fin, tous les aliments vont pouvoir, de cette manière, grâce à ces étiquettes RFID qui seront portées sur l'aliment, vont pouvoir être identifiés. Et on pourra même, si les choses évoluent, et si on s'est préalablement enregistré auprès du magasin et que l'on a donné son numéro de carte bleue, eh bien, on pourra être débité automatiquement. Donc, on passe, lecture en quelques instants, et on est débité instantanément. Mais ça, on sait faire. Mais ce qui est plus intéressant, et je crois que ça intéressera beaucoup le consommateur lorsque ça sera fait, c'est une étiquette qui devient intelligente non simplement parce qu'elle se substitue à la caissière. Et dans mon livre, d'ailleurs, je dis, ça sera tellement malheureux que la caissière qui n'est plus à sa caisse, j'espère qu'elle restera en face pour vous faire un sourire et vous remercier et vous demander est-ce que tout va bien, hein, qu'on laisse un peu d'humanité dans la relation entre le client et ses fournisseurs. Non, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'une une étiquette tout à fait intelligente, c'est certes qui permettra pour un consommateur de dire « moi, je ne veux pas d'OGM pour telle ou telle raison ». Ou « je ne veux pas d'arachide parce que mon fils ou ma fille sont allergiques ». Ou bien « je ne veux pas de cholestérol ». Ou bien toute autre chose. Bien, l'étiquette intelligente, c'est celle qui vous permettra d'avoir cette information sans avoir besoin de lire l'étiquette. Vous avez tellement d'informations sur l'étiquette que ça devient totalement illisible. Hein. On dit souvent « trop d'informations tue l'information ». Vous savez, quand c'est écrit en tout petit, il faudrait passer un quart d'heure devant chaque objet. Eh bien, moi, je vois bien l'avenir avec des étiquettes intelligentes qui vous dira lorsqu'on aura le produit, et grâce à peut-être une petite machine, une carte qu'on aura avec soi, sur laquelle on aura enregistré ses exigences, et il y aura une petite lumière verte qui s'allumera et qui vous dira « tiens, vous pouvez prendre ». Il n'y a aucun des constituants dont vous ne voulez pas, vous pouvez y aller. Ou bien rouge, il y en a un. Je vous dis pas lequel, mais peu importe, il y en a un, donc vous prenez pas. Cette étiquette vous permettra de faire vos choix très rapidement, sans avoir à lire des choses totalement illisibles.
Je vous propose de marquer une première courte pause, Pierre Fayet. Nous quittons la science et tout ce qu'elle a d'extraordinaire pour, dans une deuxième partie, évoquer le domaine de l'aliment santé et nous projeter dans le futur avec peut-être un médicament qui nous permettra d'identifier les besoins alimentaires spécifiques de chaque individu et une carte vitale, Vitalimonde, qui nous permettra de mémoriser les profils alimentaires de chacun. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Pierre Fayet, avec qui nous parlons des 5 scénarios possibles pour l'alimentation du futur à partir de son livre « La nourriture des Français, de la maîtrise du feu aux années 2030 », publié aux éditions Coué en 2007. Pierre Fayet, nous allons nous intéresser à votre deuxième chapitre de cette troisième partie de ce livre sur l'alimentation qui protège la santé, les aliments santé. On entend beaucoup parler d'alicaments. Il me semble que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce terme d'alicament.
Oui, alicament, je trouve que c'est un gros mot. Alicament, c'est composé de deux mots, aliment et médicament. Ça veut donc laisser croire que les aliments pourraient être des médicaments. Or, les médicaments, c'est pour soigner. Les aliments, c'est pas fait pour soigner. Les aliments, c'est fait pour rester en bonne santé. C'est complètement différent. Donc, je n'aime pas le mot alicament. Par contre, on utilise maintenant, peut-être un peu plus souvent, le mot d'aliment santé, sous-entendant des aliments qui vous permettent de rester en bonne santé. Oui, je préfère. J'aime pas alicament. On a parlé aussi à un moment de nutricaments, d'un tas de... Bon, alors l'alicament, on le retrouve encore dans des publicités, des choses comme ça, mais j'aime pas du tout.
Alors, nous allons discuter des propositions que vous faites. Je précise que cette troisième partie de ce livre est une fiction. Vous vous basez sur des événements qui existent, hein, mais sinon après vous vous projetez dans le futur. Je vais vous citer et comme ça après vous allez pouvoir rebondir sur vos propres propos. En 2006, le nouveau test NutriPerso, disponible depuis peu dans les laboratoires d'analyse médicale, permet d'identifier les besoins alimentaires spécifiques de chaque individu et repose sur deux avancées majeures. La possibilité, moyennant 500 euros, de caractériser chacun des 953 gènes, les hommes en possèdent environ 30 000, directement impliqués dans les effets positifs ou négatifs de l'alimentation sur la santé, et la mise au point d'un logiciel qui définit automatiquement le profil alimentaire optimal de chaque individu pour toutes les étapes de sa vie en se basant sur les caractéristiques de son génome et en tenant compte de son mode de vie passé ou à venir. NutriPerso, c'est pour 2026 ?
Oui, 2026, 2030, je ne sais pas, mais quelle est l'idée derrière ? Sur quoi j'ai voulu attirer l'attention des lecteurs ? C'est qu'aujourd'hui, on observe une percée due au travail combiné de généticiens et de nutritionnistes qui font émerger de nouvelles connaissances dans un secteur que l'on dénomme d'une manière un petit peu barbare la nutrigénomique ou la nutrigénétique. L'un et l'autre exprimant de manière un peu différente le fait que, d'une part, tous les hommes, en fonction de leur patrimoine héréditaire, ne réagissent pas de la même manière à un même aliment. Or, un bon exemple, c'est le fait que certaines populations ne boivent pas de lait parce qu'elles n'ont pas l'enzyme nécessaire à la digestion du lactose, elles n'ont pas de lactase, et notamment les populations asiatiques ou africaines, alors que les populations européennes savent le faire. Donc il y a une différence de capacité des individus en fonction de leur patrimoine génétique à digérer ou à ne pas digérer un aliment. D'une part, les individus ne réagissent pas de la même manière aux aliments qu'ils consomment, et inversement, les aliments ont la capacité d'agir sur la manière dont les gènes s'expriment. C'est-à-dire que par exemple, lorsque je consomme du sucre, ceci peut entraîner la mise en route d'enzymes qui vont provoquer le stockage de ce sucre sous forme de glycogène dans le foie. Et lorsque je manquerai au contraire de sucre, d'autres enzymes vont se mettre en route pour libérer ce glucose dans le sang. Donc il y a une interaction entre le génome et les aliments. C'est sur cette base-là qui nous montre que tous les hommes ne sont pas égaux vis-à-vis de leur alimentation et que les aliments agissent sur les gènes, que l'on peut imaginer, avec l'évolution des techniques d'identification des gènes, la diminution des coûts de ces analyses, que l'on peut imaginer que, à terme, on définira pour chaque individu le profil de ce qui lui convient. Vous avez tel profil génétique, il ne faut pas que vous mangiez d'œufs parce qu'il y a du cholestérol et le cholestérol, ça vous fait beaucoup de mal. Alors que vous, au contraire, le cholestérol ne vous fait rien, pas de problème. Et puis, c'est dans ce sens-là que je dis la carte vitale, elle va se transformer en une carte vitaliment, puisqu'en plus, on va y mettre ces caractéristiques qui font qu'on doit avoir tel ou tel type d'alimentation pour rester en bonne santé, que ce régime alimentaire n'est pas les mêmes suivant les hommes, et que donc votre médecin va pouvoir vous dire attendez, puisque je peux lire votre carte génétique dans sa relation avec les aliments, je vous dis, ça, vous pouvez y aller, ça, il ne faut pas, ça ne vous convient pas. Alors évidemment, les allergies est un bel exemple.
Et vous poussez très loin l'exemple de vitaliment, puisque vous expliquez qu'elle permettrait de pister ceux qui ne suivent pas leur régime au cours d'un test inopiné, et puis peut-être de les sanctionner s'ils vont un peu trop souvent au McDo, par exemple.
Oui, mais alors là, je vais intervenir l'État, qui n'aurait pas résisté à ce que j'appelle la tentation d'Hippocrate. Hein. L'État qui dit, attention, tous les nutritionnistes me disent que grâce à une alimentation équilibrée, je vais diminuer de manière considérable le nombre de cancers, je vais... résorber les accidents cardiaques, les soins de santé me coûtent tellement cher et de plus en plus cher, je ne peux pas laisser faire, donc j'impose aux citoyens une alimentation citoyenne qui fait que il faut se nourrir, comme je le dis, en fonction des connaissances que j'ai de votre patrimoine héréditaire et en fonction de ce que me disent les médecins nutritionnistes, parce qu'autrement, vous allez, par votre faute, parce que vous ne suivez pas le bon régime, vous voyez que Big Brother n'est pas loin, vous avez des accidents de santé, et qui les paie ? C'est la communauté nationale. Donc, on va vérifier. que vous suivez bien le régime. Et pour ça, et là, c'est pas de la fiction, parce que on pourrait savoir faire, c'est par des analyses d'urine et de sang, avec des analyses automatiques en RMN notamment, ben on peut savoir ce que l'on a mangé, s'il y a des traces ou non. Et ben alors, si vous avez mangé comme il fallait, on vous en félicite et vous avez peut-être une prime, ou on diminue vos taux de cotisation à la sécurité sociale, ou bien si vous l'avez pas fait, eh ben on vous taxe. Vous voyez, c'est un peu comme les voitures qui polluent ou qui polluent pas. Vous polluez le système de santé, je vous taxe.
Dans le rôle de l'État, il existe déjà des campagnes d'information, notamment manger 5 fruits et légumes par jour, limiter les aliments gras, manger, bouger. Vous citez Serge Herzberg qui, lui, préconise, là nous sommes plus dans la fiction, hein, c'est il préconisait, de créer des chèques fruits et légumes pour les familles les plus modestes.
Oui, ça part de l'idée suivante. Tous les économistes qui se sont penchés sur l'alimentation des Français constatent que acheter des fruits et légumes, ça coûte cher, et que ce sont les populations les plus défavorisées qui ont les régimes les plus déséquilibrés, parce que pour des raisons d'économie, peut-être d'éducation, ils ne mangent pas assez de fruits et légumes. Les fruits et légumes coûtent plus cher que manger des pâtes ou des pommes de terre. Donc il n'est pas absurde d'imaginer un système d'aide à la consommation de fruits et légumes pour les populations les plus défavorisées. Il y a d'ailleurs déjà des associations qui se préoccupent de ça. Alors, est-ce qu'au niveau de l'État, on peut distribuer des chèques fruits et légumes? J'en sais rien, parce que là, on rentre dans de la politique, dans de la gestion sociale. L'idée est généreuse, mais on peut se dire, attendez, ceux qui vont avoir ces chèques, ils vont les revendre à d'autres pour avoir de l'argent, pour s'acheter plus de pommes de terre. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Mais aller vers une amélioration de l'accès aux fruits et légumes des populations les plus démunies, si on trouve une bonne solution, alors là, il faut s'en réjouir.
Dans le troisième scénario, vous parlez de l'impérialisme agro-industriel qui impose ses produits. Nous allons donc parler de la publicité qui conditionne nos goûts, du rôle des odeurs également. Est-ce qu'on va vraiment se laisser mener par le bout du nez? Vous allez pouvoir nous en dire plus. Et également de cette publicité qui nous conditionne d'une manière ou d'une autre. Mais quand même, commençons par le rôle des odeurs. Vous revenez sur cette possibilité en 2030. Nous devrions savoir comment les odeurs dictent notre comportement, et en cela, les industriels pourraient nous induire, entre guillemets, en erreur avec des espèces de fumée inodeurs pour nous conduire vers tel produit et pas un autre.
Oui, le scénario imaginaire que j'imagine, c'est que les chimistes, en liaison avec les physiologistes des odeurs, soit arrivé à mettre au point des odeurs sans odeur. Alors je m'explique. On sait déjà à quel point on est attiré par le fumet d'un plat bien cuisiné, ou par l'odeur d'un melon bien mûr, ou de fraises des bois. Donc que les odeurs des aliments soient un élément de la perception, du plaisir qu'on va avoir à le consommer et de l'attirance qu'on peut en avoir pour lui, c'est clair. Là où je commence à imaginer le futur, c'est quand je pars du fait que les mécanismes de la physiologie de l'odorat commencent à être beaucoup mieux connus. On sait maintenant qu'il existe des milliers de protéines qui sont dans la fosse nasale, chacune d'entre elles étant capable de se lier de manière très spécifique à un produit volatile particulier. Et que c'est la somme de ces produits volatiles qui sont dans l'atmosphère qui nous entoure, qui viennent de se fixer spécifiquement sur ces capteurs, qui envoient un signal vers le cerveau qui, lui, le traduit en une association d'odeurs agréables ou désagréables. Bon, ça, on commence à le savoir. On peut donc imaginer, sur la base de ces connaissances et sur la base de travaux de biochimie structurale, de mettre au point des molécules sans odeur, mais qui néanmoins réagissent sur ces protéines des fosses nasales de manière à stimuler de manière inconsciente notre cerveau pour provoquer une attirance vers les produits. Donc, pourquoi pas, un jour, comme déjà l'insecte mâle est attiré par les phéromones de l'insecte femelle, pourquoi pas, un jour, des pièges moléculaires qui attirent telle ou telle catégorie de consommateurs vers tel ou tel aliment, sans qu'ils s'en rendent compte vraiment, de manière inconsciente, parce que cette odeur l'aura guidé jusqu'à ce produit.
Mais ce conditionnement existe déjà dans les grands magasins, dans certaines boutiques. Par exemple, on met des maillots de bain, on va distiller une odeur de mon œil, ou ça va être l'hiver, on se rapproche des fêtes de Noël, on va distiller une odeur de sapin.
Oui, c'est vrai. Dans l'alimentation, on n'a pas trop le droit de faire ça. Il y a eu un moment, certains boulangers qui pour attirer le chaland dans leur boutique par des odeurs de bonnes odeurs de pain bien cuit ou de croissant, avaient eu la tentation de vaporiser des odeurs de fournil dans la rue pour faire entrer. C'est tout à fait illégal. Hein, on n'a pas le droit de faire ça. De même, à une époque, mais pas dans le domaine des odeurs, mais dans le domaine des couleurs, des fabricants de pâtes alimentaires, vous savez que les pâtes alimentaires, on les aime bien jaunes, belles couleurs dorées, avaient imaginé des emballages colorés pour que l'on puisse penser que les spaghettis qui étaient dedans étaient de cette belle couleur jaune alors qu'ils étaient grisâtres. C'est totalement interdit. Hein. Y a donc un contrôle là, positif de l'État. Mais dans un scénario où l'on dit le grand capital mondial a pris le pouvoir. Il n'y a plus que 3 ou 4 grands groupes industriels qui contrôlent tout notre système alimentaire. Ils ont su imposer au pouvoir public leur point de vue dans une idée de grande internationalisation des échanges, etc. Ben, pourquoi pas un jour, hein, j'espère qu'on ne le verra pas arriver, mais techniquement, c'est imaginable.
Face à l'État, il y a les industriels. On va en venir à la publicité. Je vous cite, hein, dans votre livre, vous expliquez toujours en vous projetant, les sommes investies par les entreprises sont si importantes que les messages poussant à la consommation de produits rentables rendent dérisoires les tentatives des États à promouvoir une éducation nutritionnelle qui protège la santé. Est-ce que ça existe déjà, selon vous ?
Oui, alors, on est là encore dans la fiction. Alors, il faut faire attention que les auditeurs comprennent bien. Je pousse à l'extrême le fait que des grandes industries auraient pris finalement le pouvoir dans notre système alimentaire. Aujourd'hui, c'est certainement pas le cas. Les industries sont effectivement là pour gagner de l'argent, mais elles respectent, je crois, le consommateur. Et elles ont une certaine déontologie qui, au moins dans le domaine de la sécurité sanitaire, nous garantit que les aliments qu'ils nous donnent à consommer sont parfaitement sains. Ça, c'est déjà une chose importante qu'il faut dire et répéter. D'ailleurs, si elles empoisonnaient leurs clients, elles les perdraient, hein, bien évidemment. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais par contre, il y a aujourd'hui une tendance à surinformer ou chercher à attirer le consommateur vers tel ou tel type de produit dont on aimerait peut-être qu'il ne soit pas consommé en si grande quantité. Vous connaissez tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur la publicité tournée vers les enfants. C'est vrai que moi, je suis un peu gêné lorsque l'on sait à quel point on a en France un problème d'obésité qui est plus que quelque chose qu'on imagine que ça puisse nous arriver un jour. C'est là. Et accompagner en permanence des petites émissions télévisées pour les enfants, les encadrer par des messages qui les encouragent à manger sucré, à manger gras, à manger ceci, à manger cela. Là, vraiment, moi, je ne serais pas contre que l'État intervienne un peu parce que les jeunes obèses d'aujourd'hui, ce sont à coup sûr, malheureusement, les obèses de demain. Alors aujourd'hui, on est en train de rattraper doucement les États-Unis. C'est une véritable catastrophe de santé. Légiférer là-dessus, ben, j'espère que les industries alimentaires qui sont des gens, malgré tout, sérieux. Là, je suis un peu inquiet.
À ce sujet-là, vous citez une étude qui démontre que les goûts des enfants se forment à la petite enfance, vers 2-3 ans, ce qui explique d'autant plus pourquoi il y a une cible marketing encore plus accentuée vers les enfants. Outre le fait que les enfants, parfois, au sein de la famille, commandent leur choix de repas, et il y a aussi cette formation au goût prédestinée dès 2-3 ans.
Oui, vous faites allusion à des travaux de mes collègues de l'Institut national de la recherche agronomique, hein, l'INRA, je crois que c'est des collègues de Dijon, et qui ont expérimenté effectivement sur plusieurs années ce qui se passait lorsque de jeunes enfants étaient alimentés par tel ou tel produit, puis savoir si leurs préférences se développaient. Alors leurs travaux sont un petit peu compliqués, hein, c'est pas très très simple à déchiffrer, parce qu'il y a des résultats parfois un peu contradictoires, mais l'idée générale est quand même que dans certains cas, on s'habitue. Si vous voulez, il y a ce qu'on appelle dans le langage populaire, hein, un goût de revenez-y. Et lorsque, et d'ailleurs c'est tellement évident, lorsqu'il y a des mouvements de population, on sait à quel point lorsque des étrangers viennent chez nous, au bout de quelques jours, bah, ils sont contents de retrouver l'alimentation de chez eux. Le goût n'est pas inné. Le goût est issu de la culture. Alors, tant mieux pour nous, parce que nous avons une culture en France assez marquée par le plaisir de la cuisine. Hein. Mais oui, il y a très probablement un intérêt pour les grands groupes industriels à accoutumer le plus rapidement possible les enfants pour en faire ce qui pourrait être peut-être un marché captif.
Je vous propose de marquer une deuxième pause, Pierre Feillet, et dans cette troisième partie, nous parlerons du quatrième et du cinquième scénario, à savoir le quatrième, protéger le cadre de vie. Nous parlerons un peu plus en détail des OGM, nous n'en avons pas encore parlé, de l'effet pervers du bio. Donc pareil, nous sommes toujours dans la projection. Et puis le cinquième et dernier scénario, à savoir les Français qui ne se laissent pas faire. Est-ce que le principe du « c'était mieux avant » pourrait se mettre en route ? À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Pierre Feillet, nous nous basons sur son dernier livre, La nourriture des Français, de la maîtrise du feu aux années 2030, paru aux éditions Coué en 2007. Dans cette dernière partie, Pierre Feillet, nous allons parler des OGM, scénario plus que plausible pour les années 2030, également de l'agriculture biologique et de ses possibles effets pervers. Et puis enfin, dans le cinquième scénario que vous évoquez, puisque vous parlez de cinq scénarios plausibles, nous parlerons de cette peut-être de ce ras-le-bol des Français qui aimeraient revenir à une alimentation d'antan. Tout d'abord, les OGM, organismes génétiquement modifiés. Avant de parler plus en détail de votre livre, Pierre Feillet, peut-être que vous pourriez nous en dire plus sur ce que vous pensez de ce fameux principe de précaution qui a été établi et qui fait qu'actuellement en France, les plantations d'OGM ont été stoppées.
Oui, voilà une question d'actualité. Et on peut dire beaucoup de choses sur le moratoire qui a été décidé après le Grenelle de l'environnement par le président de la République, expliquant que comme les analyses scientifiques ne sont pas suffisamment crédibles ou suffisamment poussées, il faut à nouveau regarder de quoi l'on parle, il faut aller plus loin dans les études pour savoir si on peut ou non autoriser, donc faire un moratoire. Pour ceux d'ailleurs qui connaissent la question agricole, c'est un tout petit peu hypocrite parce qu'on sait que le maïs se sème au mois d'avril et qu'un moratoire qui est prévu jusqu'en février, ça ne veut pas évidemment dire énormément de choses. Les maïsiculteurs l'ont évidemment bien noté. Ceci étant dit, le principe de précaution auquel vous faites allusion, c'est un principe de décision politique qui repose sur un élément très simple. C'est que l'homme politique qui doit prendre une décision se rend compte que les scientifiques ne peuvent pas lui apporter de réponse précise aux questions qui se posent sur l'éventuel effet de telle nouvelle technologie sur l'environnement, sur la santé, et qu'en absence de cette information, bien il prend une décision d'attente. C'est ce qu'il appelle le principe de précaution. Donc le principe de précaution, premièrement, ne se prend que si les scientifiques ne se sont pas exprimés, et deuxièmement, à l'évidence, il ne doit être pris que si l'on a identifié les questions auxquelles on veut répondre et que l'on a dégagé les moyens pour y répondre. Il y a un très bon exemple d'il y a quelques années pour sortir d'actualité trop pressante. C'est l'histoire de la vache folle, où tous les scientifiques, mais là vraiment la totalité des scientifiques nationaux et internationaux nous expliquaient qu'il n'y avait aucun danger à consommer le muscle de bœuf sous forme de beefsteak au moment où il y avait des contaminations dans les élevages par le prion. Tous les scientifiques le disaient, donc l'analyse scientifique était extrêmement claire, et que de très nombreux maires ont décidé, par principe de précaution, d'interdire la consommation de beefsteak dans les cantines municipales. Alors moi, ce n'est pas du principe de précaution, ça, c'est du principe de préparation électorale. Ça n'a strictement rien à voir. C'était pour répondre à une inquiétude des électeurs. Très bien, c'est le droit des politiques. Bien sûr qu'il faut leur reconnaître le droit de prendre les décisions qui leur semblent les plus convenables pour les citoyens. Mais ce qui n'est pas convenable, c'est de s'appuyer sur le principe de précaution en disant finalement c'est la faute aux scientifiques, alors que ce n'est pas le cas. Il faut respecter les paroles des scientifiques. Il faut que le pouvoir politique respecte les paroles des scientifiques. Et dans le cas particulier du moratoire, je ne suis pas certain que le gouvernement, qui a lui-même nommé des experts dans des commissions pour évaluer le seul maïs OGM autorisé en France, et qui sait parfaitement que tous ces experts, dans la quasi-totalité de leur majorité, ont donné un avis positif à la fois pour des questions environnementales et des questions de santé, il n'est pas normal que l'on dise comme les scientifiques ne savent pas, je mets le moratoire, que le gouvernement dise, les scientifiques m'ont dit ça, je l'ai bien noté, mais pour des raisons qui sont les miennes, d'acceptabilité par le citoyen, d'équilibre entre la demande des uns et des autres, je mets un moratoire, je suis d'accord. Par contre, je ne peux pas partager l'idée que je prends les scientifiques pour alibi à des décisions qui ne reposent pas sur des bases scientifiques.
Vous parlez des scientifiques, vous en citez un, enfin vous en citez plusieurs dans votre livre, notamment un, Claude Allègre, qui est aussi à l'Académie des sciences. Vous citez ses propres propos, que je vais donc citer également. Donc Claude Allègre explique « Il est clair qu'avec les OGM se trouve là le moyen de faire disparaître définitivement la faim dans le monde, et plus important encore, de mettre fin à l'agriculture industrielle dans des conditions économiques qui ne laisseront pas nos paysans. » Nous allons parler plus en détail des possibilités des OGM. Après, nous laisserons nos auditeurs se faire leur propre opinion. Justement, avec les problèmes de climat qui vont de plus en plus se poser, il y aura cette possibilité, vous expliquez d'ailleurs plusieurs fois dans votre livre, la possibilité avec les OGM, qui existent déjà avec le maïs, d'avoir des cultures qui vont pouvoir consommer moins d'eau, par exemple, dans les zones un peu plus asséchées.
Si vous me permettez d'être un tout petit peu provocateur, mais juste un petit peu avec un sourire, hein. J'aurais envie de dire que les OGM sont les meilleurs atouts des agriculteurs biologiques et des écologistes. Alors, je sais que je provoque un peu en disant ça, mais pourquoi je le dis ? Sortons un petit peu des polémiques de savoir si les OGM vont agir sur la biodiversité, sur l'environnement, sur la santé. Supposons qu'un jour tout ça soit bien résolu et clarifié, comme permet de l'espérer tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les OGM. Supposons ça. Les OGM, à quoi visent-ils ? Ils visent à améliorer la productivité en diminuant ce que on appelle dans le monde agricole les intrants. Les intrants dans l'agriculture, c'est ce que l'on apporte pour faciliter la culture. Ce sont les engrais, ce sont les pesticides, ce sont les herbicides, l'arrosage. C'est tout ce qui est autour de la semence pour la faire pousser. Il y a beaucoup d'éléments pour penser qu'avec l'introduction de nouvelles propriétés dans le patrimoine des plantes, par transformation génétique, on puisse avoir des plantes qui consomment moins d'eau, qui résistent davantage à la sécheresse.
Et c'est le cas, il me semble, en Australie.
Oui, il y a eu des travaux sur le blé là-dessus. Les Israéliens ont jeté les bases fondamentales de ces études. Et imaginez des maïs en France qu'il soit moins nécessaire d'irriguer pendant l'été, alors que c'est la critique qu'on leur fait. Alors que d'ailleurs, le maïs est une plante qui ne consomme pas énormément d'eau, mais il le consomme au moment où il ne faut pas. Bon. Donc moins d'eau. Imaginons, rêvons. Des céréales qui, comme les légumineuses, sont capables d'utiliser l'azote de l'air pour pousser et n'ont pas besoin de nitrate et d'engrais.
Ce qui existe déjà aussi en partie ?
Non, ça sur les céréales, on ne sait pas faire. Mais les légumineuses, elles savent faire. Le soja, par exemple, ou le pois, le haricot, sont des plantes qui n'ont pas besoin d'engrais azote. Et au contraire, on les fait pousser. Elles vont chercher l'azote dans l'air grâce à des associations avec des micro-organismes du sol, des rhizobiums, et elles vont apporter de l'azote dans le sol. Donc, imaginons ça. Imaginons des plantes qui soient plus nutritives. Imaginons des plantes qui tuent les parasites. Mais alors, quel effet positif sur l'environnement ? Quel effet positif sur l'alimentation si les rendements augmentent ?
Plus de pesticides, plus d'engrais.
Moins de pesticides, moins d'engrais, moins d'eau. C'est vrai que je sais que je provoque en disant ça, mais si on prend le temps de réfléchir et si on ne veut pas vraiment polémiquer à chaque instant, on se dit, mais ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir davantage. Donc, quand je dis ça, moi, dans mon ouvrage, c'est pour appeler à ceux qui, d'une manière très, très spontanée, pas toujours très documentée, parce que c'est très difficile d'être documenté sur ces sujets, c'est des sujets complexes, très passionnels, rejettent en bloc les OGM, dit, ben, attention, prenons le temps de discuter, prenons le temps de réfléchir. Je prends un autre exemple, si vous me permettez, dans l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, vous avez actuellement une rumeur. C'est la rumeur de la FAO, l'agence chargée de l'alimentation au sein de l'ONU. Il y a une rumeur de la FAO qui est de dire, et elle est utilisée par beaucoup d'agriculteurs biologistes ou de défenseurs de l'agriculture biologique aujourd'hui, qui est de dire, la FAO nous affirme que grâce à l'agriculture biologique, on pourra nourrir le monde. Ah. Voilà qui pose problème. Alors, on se renseigne. La rumeur a fini par aller jusqu'à Rome, où se trouve la siège de la FAO, qui, il y a quelques jours, a édité un communiqué du directeur général de la FAO disant « Mais on me fait dire ça, c'est absolument pas vrai. Nous n'avons jamais dit ça. C'est une association qui, lors d'une réunion, a dit cela, mais c'est pas nous. Et nous, nous disons très clairement que ce n'est pas vrai. Et qu'il n'y a pas possibilité de nourrir le monde avec l'agriculture biologique, il faut revenir aux engrais, aux pesticides, etc. Donc, on est dans un sujet où le citoyen a beaucoup de peine à comprendre, parce que qui dit vrai ? D'un côté, on dit la FAO a dit, Puis de l'autre côté, moi, je vous dis non, la FAO a démenti. Mais est-ce que c'est moi qui raconte des histoires ou est-ce que c'est la rumeur qui est fausse? Il faut arriver à se renseigner, c'est difficile.
Vous parlez de révolution bleue, puisque nous arriverons à produire plus avec toujours la même quantité d'eau.
Ben oui, parce qu'on a révolution bleue, parce qu'on a parlé de la révolution verte. Cette révolution verte qui est celle qui, à partir des années 50, a permis d'accroître considérablement les rendements par une meilleure maîtrise de la physiologie de la plante et en emportant les nutriments et l'eau dont elle avait besoin. Ben c'est vrai qu'on a maintenant un problème vis-à-vis de l'eau. Il faut une révolution de l'eau potable, de l'eau en quantité suffisante, mais de l'eau en qualité suffisante. On n'a pas de problème en France. Hein. Le seul problème en France, c'est que l'eau minérale coûte affreusement cher par rapport à l'eau du robinet et que sur le plan de la santé, elle n'a aucun avantage. Hein. Alors, ceux qui préfèrent payer 1000 fois plus cher un litre d'eau en achetant de l'eau minérale, ben c'est leur problème, c'est leur choix, pas de souci. Mais l'eau du robinet, c'est pareil. C'est aussi bien. Bon, ceci étant dit, il y a un tas de pays du monde où l'eau pose un vrai problème de santé, où de très nombreuses maladies sont véhiculées par l'eau. Donc on a besoin d'une véritable révolution bleue pour que tous les hommes sur la Terre aient une eau en qualité, d'abord, et en quantité suffisante pour se nourrir, pour se pourboire. Hein, vous savez, il faut boire tous les jours un litre et demi d'eau, il faut le faire, il faut le trouver. Et puis ensuite, on a besoin d'eau pour toutes les autres activités, qui sont les activités d'irrigation pour faire pousser les plantes, les activités industrielles, etc. Oui, on a un problème d'eau, je crois que tout le monde en est bien conscient, mais dans ce message que je peux avoir sur la nutrition, c'est de dire qualité de l'eau, qualité de l'eau, qualité de l'eau, et là, il y a vraiment quelque chose à faire.
Notre alimentation va-t-elle changer durablement avec les années à venir? Je m'explique. Vous précisez dans votre livre qu'avec les années qui vont passer, il va y avoir, et ça tout le monde le sait, de moins en moins de pétrole, de moins en moins d'énergie, et vous mettez en rapport la culture, l'agriculture, enfin les élevages, à savoir que, eh bien, élever une vache, un bœuf, un porc, c'est très énergivore. Et de ce fait, moi, la question que je vais vous poser, est-ce qu'en 2050, lorsque le pétrole sera de plus en plus difficile à obtenir, est-ce que nous allons finir par devenir végétariens? Puisque la viande va coûter très cher en énergie.
Qu'on devienne végétarien, moi je ne pense pas. Hein. On aura des solutions. L'homme est omnivore, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. L'homme est omnivore, il mange de la viande, il mange des légumes, il mange des fruits. C'est important pour son plaisir, pour son équilibre. Et je dis ça tout en respectant parfaitement les gens qui, pour un tas de raisons, sont ou végétaliens ou végétariens. C'est très bien, pas de souci. Attention simplement à ce qu'il garde un bon équilibre des nutriments pour pas avoir des carences, hein, c'est ça que je dirais. Mais vous parlez d'énergie, c'est vrai que le système alimentaire du citadin des pays développés est très coûteux en énergie. Si la population du monde se nourrissait comme le citadin new-yorkais, il faudrait mobiliser 50% de l'énergie utilisée dans le monde rien que pour se nourrir, ce qui n'est pas possible ni imaginable. On fait des économies d'énergie et on protège l'environnement par des décisions qui sont prises sur l'habitat, qui sont prises sur la circulation automobile. Il faut effectivement aussi réfléchir sur ce qu'il faut faire au niveau énergétique et au niveau environnement sur notre alimentation. Il faudra trouver des systèmes alimentaires qui consomment moins d'énergie. Alors, vous dites végétarien, non, le mouton qui pèse tranquillement sur les alpages et qui mange de l'herbe, produit d'une énergie photosynthétique, celle du soleil, son rendement énergétique est tout à fait remarquable, puisqu'il consomme aucune énergie renouvelable hein, et aucune énergie fossile. Hein. Par contre, le poulet en batterie, lui, il est un peu mis en cause, parce qu'il réclame beaucoup d'énergie. Alors, il est possible, donc, que s'il y avait de vraies ruptures sur le plan énergétique, et s'il fallait trouver des endroits où faire des économies, ben peut-être faut-il laisser le mouton et les vaches sur leurs alpages et leurs prés et voir d'un peu plus près l'énergie consommée pour faire des vaches ou des porcs.
Très rapidement, Pierre Feuillet, pour terminer cette émission, puisqu'il ne nous reste plus que 2 minutes, la cinquième et dernière partie, vous évoquez les Français qui finalement pourraient faire aussi une révolution, comme si après cette fameuse course à la technologie, il y avait une accalmie et qu'on revienne un peu au système d'antan. Reprendre le temps de cuisiner, d'acheter des produits et de faire la cuisine. C'est une utopie ou ça pourrait se réaliser comme les autres scénarios que vous nous avez expliqués tout au long de cette
émission. Je suis content qu'on termine cette émission sur ce point-là, parce que l'alimentation, c'est pour se nourrir, c'est-à-dire pour apporter les nutriments dont on a besoin pour vivre, pour être actif, mais c'est également, tout du moins dans notre pays, un moment de plaisir, de convivialité, de rencontre. Et je suis persuadé que, en raison de notre culture, du fait que l'homme est ce qu'il est, le plaisir restera toujours au cœur de notre alimentation, et que ce plaisir, il est bien sûr à table, mais il peut également se trouver à la cuisine. Peut-être qu'en conclusion, le message que j'aimerais dire, c'est que la technologie, elle va modifier assez profondément tout le système alimentaire, de la semence et du champ jusqu'à la cuisine. Mais qu'à la salle à manger, dans notre assiette, finalement, notre repas, il sera à peu près le même demain qu'il n'est aujourd'hui et qu'il n'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait pas de surgélation, mais on mange toujours la même chose. Le contenu technologique du filet de poisson que vous avez dans votre assiette, il n'est peut-être pas le même, parce que peut-être que c'est un produit surgelé ou d'être un produit frais, mais finalement, c'est toujours un filet de poisson, et les techniques industrielles sont telles que, finalement, c'est pas mal. Donc, la technologie, oui, du champ à la cuisine, le plaisir de la table et la constance de notre repas et de notre diète à la salle à manger, oui.
Le slow food a un futur
le slow food, positif. Le slow food, vous savez, c'est cette association qui s'est créée en Italie par réaction contre le fast food, qu'ils appellent eux-mêmes le néfast food. L'avenir, j'en sais rien, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que ce sont des actions positives. Ce sont des actions de sensibilisation aux vraies questions de l'alimentation qui prennent un peu le contre-courant, certaines manières de manger trop vite, de manger trop gras, de manger trop ceci, trop cela, qui cherche à réhabiliter le plaisir de la table, la liberté de manger comme on le souhaite, de prendre son temps pour se nourrir. Moi, je trouve ça sympathique. Peu importe que c'est un futur, ils ont déjà un peu marqué le système. C'est bien, moi, j'aime bien.
Eh bien, je vous remercie, Pierre Chaillat, d'être venu jusqu'à nous à Canal Academy. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La nourriture des Français, de la maîtrise du feu aux années 2030. Nous sommes plus intéressés aux années 2030 qu'à la maîtrise du feu. Donc, paru aux éditions Coué en 2007. Et puis, j'invite nos auditeurs à aller faire aussi un tour sur le site de l'Académie des technologies, également l'Académie d'agriculture, les deux académies auxquelles vous appartenez, Pierre Feillet. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, vous remercier parce que c'était un très grand plaisir d'échanger avec vous quelques paroles sur les plaisirs de la table.
Merci beaucoup, Pierre Feillet. À très vite. Au revoir.